VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Cameroun, 34 militaires camerounais sont portés disparus après le naufrage d'un navire de l'armée dimanche. C'est ce qu'a indiqué le ministre camerounais de la Défense, Joseph Betty Assomo, dans un communiqué diffusé dans la nuit de dimanche à lundi. Des recherches sont en cours et 3 soldats ont pu être secourus, mais le bateau a coulé, selon le ministre. Le bâtiment avait 37 personnes à bord, y compris l'équipage, et il se rendait à Bakassi pour un ravitaillement. Il a chaviré en mer au large de Deboumcha le 16 juillet 2017 vers 6h du matin. Les circonstances de cet accident ne sont pas encore élucidées, mais les premières informations font état d'une mer qui s'est brusquement agitée. Nigeria, 8 personnes ont été tuées ce lundi dans un attentat suicide commis par une femme dans une mosquée de Maiduguri, la capitale de l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. La kamikaze s'est fait exploser dans une mosquée du quartier London Chiki, juste après la prière du matin. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP Ahmed Santomi, un responsable de l'agence locale de gestion des urgences. 15 autres personnes ont été blessées. Les attentats suicides sont devenus le principal mode opératoire du groupe djihadiste Boko Haram après 8 ans d'insurrection sanglante dans le nord-est du pays, qui a fait au moins 20 000 morts et plus de 2 600 000 déplacés. Au Tchad, l'ex-maire de Moundou et ancien candidat à la présidence, Laokane Kourayo-Medar, attend toujours d'être fixé sur son sort. Son arrestation jeudi soir par la police locale est intervenue quelques jours seulement après sa destitution par les conseillers municipaux qui l'accusent de mauvaise gestion. Timothée Donoma a joint à Moundou son épouse, Madame Gisèle Laokane Kourayo.
Il n'y a pas eu de changement, il est toujours en cellule, cadenassé. Et ses avocats n'ont pas l'accès à le voir. Et ses avocats sont refoulés comme des chiens. Vraiment, c'est un peu compliqué. Le procureur général n'est même pas au courant de tout ce qui s'est passé. Personne n'a fait savoir que voilà, il y avait tel problème, tel problème. Sinon, c'est le juge de paix de Mbaye-Namar qui a assuré l'intérim du juge d'instruction qui était en formation à N'Djamena. Et c'est lui qui les a ordonnés de venir percuter la maison, d'arrêter Laokane. Et tout ça, c'est pour cela qu'ils sont venus avec la force, avec 3 véhicules de la police bourrée, de raies bleues, des policiers, qui se sont foutés sur le gens avec des tirs par-ci, des lacrymogènes, des armes. Ça, c'était le jeudi. Sinon, le maire n'a même pas reçu une convocation ni un mandat provenant de la justice et tout ça.
Madame Gisèle Laokane Kourayo, jointe à Moundou dans le sud du Tchad. Au Congo-Brazzaville, les électeurs sont allés aux urnes dimanche pour renouveler l'Assemblée nationale et les conseils départementaux. 151 sièges sont à pourvoir aux législatives et 1158 aux élections locales. Le vote a été reporté dans 8 des 14 circonscriptions de la région troublée du Pool, non loin de la capitale. Timothée Nonongma a joint à Brazzaville Laomba Mouké, un des observateurs nationaux.
Au niveau de Brazzaville, il n'y a pas eu d'incident majeur. Là, je vous parle de Brazzaville parce que je suis à Brazza. Et dans ce cadre, nous n'avons pas constaté quelque chose de grave, mais seulement et la participation n'était pas... Il n'y avait pas d'engouement pour la population. Donc, dans les bureaux de vote, c'est vrai, il y avait déjà, mais il n'y a pas d'engouement vraiment comme si la population était décidée. Non, mais il y a eu quand même des votes.
Une partie de l'opposition a boycotté ce scrutin. Quelle a été l'incidence sur les opérations?
Comme je vous ai dit, il n'y a pas eu d'incident comme tel, mais c'est seulement comme la population, vous savez que c'est la population congolaise, pour eux, les élections sont des élections déjà gagnées d'avance. Il y a aussi la manière où il y a la campagne. Il n'y a pas eu, disons, des messages qui pouvaient effectivement intéresser la population à pas avec candidat. Et ce qui fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'engouement. C'est un peu ça le problème.
Luamba Mouké, président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral, joint à Brazzaville par Timothée Donangmaï. Au Kenya, l'élection présidentielle prévue le 8 août, de plus en plus menacée par les fake news, les fausses nouvelles. Un torrent de publicité négative se déverse sur Internet à quelques semaines du scrutin, suscitant l'inquiétude dans un pays où politique et appartenance ethnique sont étroitement liées. À preuve, cette vidéo de 90 secondes diffusée la semaine dernière, prédisant un avenir apocalyptique pour le pays en cas de victoire de Raila Odinga, le candidat de l'opposition. Le Kenya élit le 8 août son président, ses députés et ses gouverneurs. Et ce 10 ans après les violences électorales de 2007-2008 qui avaient fait quelques 1100 morts et plusieurs centaines de milliers de déplacés.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Côte d'Ivoire, célébration ce 17 juillet de la Journée mondiale de la justice internationale, une journée qui marque l'anniversaire de l'adoption du statut de Rome de la Cour pénale internationale, la CPI. En Côte d'Ivoire, cette Cour, censée lutter contre l'impunité dans les crimes les plus graves contre l'humanité, n'est pas perçue comme impartiale par ses détracteurs ivoiriens depuis l'ouverture du procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son allié Charles Blé Goudé. Coup de projecteur sur l'image de la CPI en Côte d'Ivoire avec notre correspondante à Abidjan, Narita Namasté.
La justice ivoirienne a connu un moment donné des failles. Soutient Soro Brahima, le tout nouveau président de l'Union pour la Côte d'Ivoire. Avant de proposer que cette journée soit une occasion de s'inspirer des succès de la justice internationale afin de bénéficier à nouveau de la confiance des justiciables.
Je pense que c'est une journée qui doit être mise à profit pour réfléchir sur notre système judiciaire et même notre système juridique dans son ensemble. Si aujourd'hui nous avons des Ivoiriens qui sont jugés par des juridictions dites internationales, c'est parce qu'à un moment donné on a estimé que notre justice n'était pas apte pour mener ces procédures jusqu'à leur terme. Nous devons faire en sorte d'éviter ce genre de situation à l'avenir. Donc cela suppose que nous bâtissons un système judiciaire fort en qui les Ivoiriens et les Ivoiriennes doivent faire confiance.
Depuis quelques années, la justice internationale est mal perçu par des Ivoiriens avec la détention de l'ancien président Laurent Gbagbo, Daniel Boni Claveri, président de l'Union républicaine pour la démocratie et très fidèle soutien de Laurent Gbagbo. La justice internationale est une juridiction aux ordres.
Ce que nous voyons 19 ans après nous permet de faire ces bilans et surtout l'internement du président Laurent Gbagbo de Blé Goudé ont fait que cette juridiction a été sous les projecteurs et nous avons maintenant connaissance de son fonctionnement et puis des acteurs qui l'animent.
Ce 17 juillet doit être une journée bilan pour toutes les justices du monde, mais plus particulièrement pour la justice internationale, selon Yacouba Doumbia du mouvement ivoirien des droits de l'homme.
Une telle journée a son importance parce qu'elle devait permettre de faire un bilan des activités passées et de réfléchir sur les perspectives afin d'améliorer en fait ce qu'on appelle la justice internationale dans son ensemble, que nous avons appelé de tous nos voeux à une certaine époque.
La justice internationale réussira-t-elle un jour à bénéficier à nouveau de la confiance des Africains et singulièrement des Ivoiriens? Difficile à croire. Tant le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé aura, avec ses nombreux rebondissements, réussi à briser le mur de la confiance et de la crédibilité. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
En Libye, le chef du GNA, le gouvernement libyen d'union nationale, propose des élections présidentielles et parlementaires en 2018 avec l'espoir de mettre fin à l'insécurité et aux rivalités politiques qui affectent le pays depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Fayez al-Sarraj a également présenté une feuille de route en 9 points pour sortir le pays de la crise et relancer l'accord politique signé entre les groupes rivaux libyens fin 2015 au Maroc sous l'égide de l'ONU, accord qui avait donné naissance au GNA. L'Afghanistan a enregistré un nouveau record à la hausse des victimes civiles du conflit en cours dans le pays, avec 1662 morts et 3581 blessés au sein de la population sur les 6 premiers mois de 2017. C'est ce qu'a annoncé ce lundi l'ONU. Une grande partie des civils tués, 40% ont péri dans des explosions, attentats, mines et improvisés explosifs, dont près d'un sur cinq dans la capitale Kaboul, a précisé la mission d'assistance de l'ONU à l'Afghanistan dans son rapport semestriel. Et pour terminer, en Iran, un tribunal a condamné un ressortissant sino-américain à 10 ans de prison pour infiltration. C'est ce qu'annonce un porte-parole de la justice iranienne. Cette annonce a été suivie d'une protestation du département d'État américain qui réclame la libération immédiate de tous les citoyens américains injustement détenus en Iran.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.